RFI, grand reportage.
Mehdi Medeb.
Il y a des guerres qui marquent l'histoire de l'humanité plus que d'autres, suscitent de l'intérêt également, voire de la passion bien des années plus tard. C'est le cas de la Première Guerre mondiale. On célèbre le centenaire de l'armistice qui y a mis fin le 11 novembre 1918. Un siècle plus tard, certains, notamment en France, y consacrent une bonne partie de leur temps, se donnent pour mission de combattre l'oubli de ce conflit meurtrier et qui a concerné de près ou de loin l'ensemble de la planète. Passeur de mémoire, la Grande Guerre pour la postérité, le grand reportage de Bruno Faure réalisé par Pierre Chaffanjon.
Alors c'est une Renault AG1 de 1909 qu'on connaît davantage sous l'appellation du taxi de la Marne. C'est le symbole de l'arrière pour justement la première victoire française, la bataille de la Marne.
Cela fait plusieurs années que Brice Bélier sillonne la France au volant de ce véhicule rouge, capote noire et roue jaune, héritage familial. C'est un vrai passionné de la Grande Guerre.
Alors là aujourd'hui j'ai une tenue de piou-piou, c'est la tenue de fantassin français d'entrée de guerre qui correspond à 1914. Ils ont changé, ils sont devenus en bleu horizon à partir de 1915, mais la réquisition des taxis était en 14, donc j'ai la tenue d'entrée de guerre.
Avec des centaines d'autres amateurs d'histoire, il est venu en cette fin de mois d'août à Verdun, lieu de la bataille la plus emblématique de la Première Guerre mondiale, pour une reconstitution géante.
L'utilité, c'est la transmission de la mémoire, pouvoir témoigner de ce que c'est qu'un véhicule ancien, les costumes anciens, l'histoire, la guerre. Donc il y a une portée aussi de l'évolution technologique, c'était une guerre industrielle, donc c'est ces symboles-là en fait que nous on apporte et qu'on complémente par rapport aux autres groupes de reconstitution.
Je m'appelle Mircea Stoica, je suis le président de l'association Tradition Militaire de Roumanie.
Pendant trois jours, ces hommes et ces femmes revivent à leur manière et de façon pacifique les événements de 14-18.
Mon père a connu ma mère il y a plus de 50 ans et quand je suis né, j'avais déjà cette passion. Et j'ai rencontré des gens qui sont devenus mes camarades, qui ont la même passion et on vient de bien loin. Mais ça vaut la peine. Si des gens passionnés de la vie militaire, qui sont vraiment patriotes, peuvent faire des amitiés à travers les frontières et à travers les anciens fronts, alors ça signifie que c'est une victoire pour tous.
Une quinzaine de pays qui ont combattu à Verdun sont représentés, y compris l'Allemagne. Daniel Krajewski est venu de Bavière.
Des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne parlent pas la même langue, d'horizons différents, mais qui partagent la même passion pour l'histoire, se comprennent immédiatement.
Et
il n'est pas question ici de rejouer les batailles. On est juste là pour s'imprégner de l'horreur des tranchées. On est juste content de partager des choses ensemble.
L'organisateur de cette reconstitution est Thierry Hubscher, par ailleurs directeur du mémorial de Verdun, créé en 1967 pour honorer les anciens combattants. Ce musée a évolué pour s'adresser à l'ensemble de la population.
Je pense qu'il faut aujourd'hui aborder ce tourisme avec un œil nouveau. On n'est plus aujourd'hui comme le touriste était il y a 50 ans, qui était plutôt un pèlerin qui venait se recueillir à la mémoire d'un parent qui avait combattu ou qui était mort ici. Aujourd'hui, il n'y a plus de contemporains. Les jeunes n'ont plus d'anciens pour leur raconter la guerre. On va rentrer dans une période d'activité, de tourisme, de l'histoire différente. On va sortir d'un cycle de commémoration où on a célébré de façon très protocolaire et très officielle. Si on veut aujourd'hui que la population internationale que l'on a sollicitée ait envie de revenir, il faut lui proposer autre chose que des commémorations, avec bien entendu la véracité historique qui est nécessaire, mais il faut aussi offrir des produits qui soient à l'image de ce que veulent les gens aujourd'hui.
Je suis venu dans cette forêt pour voir par moi-même.
Dans notre scénographie, nous avons fait appel à des moyens de médiation contemporaine qui sont familiers pour les jeunes, beaucoup d'interactivité, d'audiovisuel, d'images, de 3D. On développe des applications sur tablette pour que des jeunes publics puissent visiter le mémorial avec un intérêt particulier. On fait des cours en ligne. Donc tout ça, ça rentre dans une nouvelle démarche de communication et de pédagogie qui n'avait pas lieu jusqu'à présent.
Je marche ici pour découvrir la terrible histoire qui se cache sous mes pas, parmi ces beaux arbres, au creux des chemins paisibles. J'ai voulu voir où repose la bataille de Verdun.
On rentre là-dedans, ça donne des frictions, quoi. Hein, ma femme, j'étais avec ma femme, elle est ressortie, elle n'a pas voulu rester.
Pourquoi vous êtes venu avec votre petit-fils à cette exposition?
Je suis venu pour transmettre le savoir, quoi, de ce qui s'est passé. Qu'ils comprennent, parce que c'est pas évident pour des gamins de comprendre de ce qui s'est passé. Pour eux, ça les fait rire quand on voit toutes les technologies d'aujourd'hui. Ils sont.
Hein. J'ai trouvé ça bien. Quand on voit tous les gens à la guerre, il m'a aussi expliqué, avant que je voie la vidéo, que quand ils avaient une jambe cassée ou qu'ils ne pouvaient plus la réparer, ils la coupaient.
Sur place.
Voilà, on peut voir comment ça s'est passé et pas imaginer. Parce que quand on imagine, parfois, on peut se tromper.
Vous-même, qui vous a raconté la guerre de 14?
Ben, on a lu beaucoup. Puis j'avais quand même des amis de mes parents qui avaient fait la guerre de 14. Et puis c'était toujours le sujet de discussion quand on était en famille.
Sur le marbre et dans l'histoire, enfant, vous verrez gravé les noms rayonnants de gloire de ceux qui nous ont sauvés.
Le souvenir de la Première Guerre mondiale, avant tout une affaire de famille, ces histoires transmises de génération en génération. Nicolas Offenstadt est historien, auteur de l'ouvrage 14-18, la Grande Guerre dans la France contemporaine.
Il faut se rappeler qu'il y a eu des millions de mobilisés, donc toutes les familles françaises plus ou moins ont été concernées par la guerre de 14. Et d'une certaine manière, la guerre en France est d'abord une mémoire familiale. C'est pas les commémorations politiques qui l'emportent, c'est pas les grandes cérémonies, même si elles peuvent avoir de l'importance, hein, mais c'est cette transmission au sein des familles qui est extrêmement sensible. Et ça, évidemment, c'est à une échelle qui est très très importante, hein, encore une fois, parce que pratiquement chaque famille a une histoire à raconter. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une forme de transmission de la mémoire qui est indépendante du fait commémoratif, qui est indépendante des enjeux politiques. Parfois, ça choque une génération. On dit souvent c'est la génération des petits-enfants, hein, qui s'est rappelé des grands-pères poilus. Et donc tout ça me paraît beaucoup plus fort et plus important que beaucoup de ce qui se passe au niveau de l'État.
Avec un côté moins polémique que pour la Seconde Guerre mondiale.
Oui, alors ça c'est évidemment quelque chose qui est très important. C'est pourquoi est-ce que la mémoire de 14-18 en France est si vivante et si importante? C'est que la figure du poilu, hein, donc le soldat d'étranger, c'est quelque chose qui reste une figure finalement partagée par tout le monde. Alors il faut l'expliquer. Quelle que soit la langue par laquelle on aborde l'histoire de 14-18, finalement c'est acceptable comme histoire pour les Français. Soit c'est le poilu héros, celui qui défend le territoire contre l'adversaire en 1914 au moment de la Marne, en 1918 à nouveau lors des offensives allemandes. C'est celui qui tient dans les tranchées, qui est là pour défendre le territoire. Mais aujourd'hui, où on valorise aussi les résistances, les désobéissances, la lutte contre la guerre, le poilu, c'est le mutin, c'est celui qui refuse d'aller à l'abattoir sans dire son mot. C'est celui qui aussi est capable, hein, de refuser des ordres imbéciles ou en tous les cas de les dénoncer. Donc que ce soit la figure héroïque ou la figure critique, hein, le poilu, c'est une figure très positive. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi dans mes enquêtes avec les contemporains, c'est combien il y a une idée qui est en partie mythique, qui est en partie réelle. Et c'est aussi des gens qui étaient plus solidaires entre eux. Donc une époque où on était content, même si le monde était difficile, évidemment, dans les tranchées, mais il y avait quand même cette idée que les sociétés étaient plus solidaires. Vous voyez, ça fait beaucoup d'éléments pour expliquer que finalement, la figure du poilu reste très forte dans les mémoires.
Il y a eu une transmission par l'intermédiaire des familles. Et puis, il y a des gens qui s'y intéressent de façon très personnelle, parfois de façon intellectuelle. Il y a toute une communauté qui s'est créée.
Oui, j'avais appelé ça l'activisme mémoriel. Pourquoi l'activisme? Parce que ces gens-là font plus qu'entretenir la mémoire. Hein. Ils la construisent, ils la pérennisent. Ça veut dire que parfois, ce sont eux qui entretiennent les monuments. Ils en fabriquent même de nouveau à la mémoire de tel ou tel soldat, à la mémoire d'un soldat fusillé. Donc, il y a les groupes qui, dans les anciennes zones du front, contribuent à entretenir ou à valoriser. Parfois, ils remettent au goût du jour les tranchées, ils font visiter à des jeunes. Bref, il y a tout un ensemble de manières d'entretenir 14-18 qui va bien au-delà de la simple... C'est même plus que des passeurs de mémoire, c'est des gens qui la fabriquent, qui la diffusent. Et ça, en France, c'est évidemment des milliers de personnes. Hein. C'est effectivement les reconstituteurs, c'est ceux qui entretiennent le patrimoine, c'est ceux qui éditent des livres et des textes de soldats, c'est aussi les artistes. Car dans cette mémoire, il faut souligner combien l'art, la chanson, le théâtre et le cinéma est très important. Donc vous voyez, il y a vraiment un activisme mémoriel qui transcende les genres et les formes, hein, pour, en quelque sorte, appuyer ce mouvement mémoriel d'ensemble.
Je ne suis pas un grand musicien, mais je peux vous montrer le son d'un clairon.
Dans cette communauté de passeurs de mémoire, Patrice Boucherie, il tient dans Paris une boutique baptisée Le Poilu.
Alors là, on a tous les équipements français de la guerre de 14. Donc vous avez par exemple des choses comme le moulin à café. C'est tout bête, mais c'est une pièce vraiment rarissime.
Depuis plus de 35 ans, il revend à des collectionneurs les objets dénichés dans un grenier, une armoire. Son grand-père a combattu en 14-18.
J'ai retrouvé, quand il est décédé, sa croix de guerre et son livret militaire, et j'ai voulu en savoir plus, et une photo de lui. C'est tout ce que j'avais d'époque de lui. Donc je me suis intéressé d'abord aux ouvrages, aux livres, tout ce qu'il pouvait toucher sur la guerre de 14. Il y avait déjà pas mal d'écrits à l'époque, souvent des anciens. Et puis je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, moi, il me fallait un support matériel au livre. C'est-à-dire que des fois, quand les écrivains racontaient une baïonnette, un casque, un uniforme bleu horizon et tout, j'ai ressenti le besoin de toucher ces objets-là. Alors j'ai d'abord été dans des musées, mais vous avez une vitrine, vous avez quelque chose, on ne peut pas toucher. Et puis en me promenant dans des brocantes, enfin les puces en l'occurrence, j'habitais pas loin à l'époque des puces de Vanves, j'ai récupéré un casque Adrian de la guerre de 14. Donc pour moi, j'avais 12 ans à l'époque, c'était extraordinaire. J'avais presque le casque de mon grand-père, quoi, qui m'avait rien légué sur ce sujet-là. On est rentré, moi et mes futurs collègues, dans la collection comme ça, à travers ces objets-là. Voilà, ça a commencé comme ça.
De cette mémoire, Patrice Boucherie a fait son métier, mais en tire quelques satisfactions personnelles.
On revoit des gamins qui viennent ici. Alors maintenant, la guerre de 14, évidemment, ils ont pas assez... Pas leur grand-père, c'est leur arrière-grand-père, mais ils viennent avec une photo, ils en ont entendu parler, et ils veulent savoir, bah, tiens, dans quelle unité, qu'est-ce qu'on peut trouver comme souvenir de ce régiment-là, et ça perdure encore actuellement. On y vient aussi par le régionalisme. Moi, c'est de par mon grand-père, donc familial. Il y a des gens qui n'ont pas connu, moi j'ai le visage de mon grand-père, il y a des gens qui ne l'ont pas connu, donc ils vont s'intéresser à ce qui s'est passé dans leur village, dans leur région. Quand des objets, par exemple, quand on a vraiment des belles pièces qui vont dans une grande collection, dans un musée où tout le monde peut les voir, les apprécier, c'est le summum de ce qu'on... Voilà, on est vraiment très content. Une chose est sûre maintenant, c'est que les objets qui passent par ici ne sont pas perdus. Ce n'est pas des choses qu'on va retrouver dans les poubelles dans 10 ou 20 ans.
Transmettre la vérité, combattre l'oubli, c'est le défi que s'est fixé Noël Janteur, maire de Crane, village à une centaine de kilomètres au nord-est de Paris. Il dirige l'association Lacagna.
C'est un nom qui m'a marqué quand j'étais très jeune par les anciens combattants qui étaient revenus sur le terrain, qui retravaillaient sur ce sol-là. Et lorsqu'on arrivait, vous voyez, comme à cette heure-là, en plein midi, ou le soir, quand ils étaient un petit peu fatigués, ils disaient « bon, il est temps de rentrer à la Cagna ». Ça veut dire « petite maison » en indo-chinois, si vous voulez. Au départ, c'était déjà comprendre, savoir ce qui s'était passé là. Il y a toute une phase de découverte, et puis de coordonner un petit peu ce qu'on avait reçu directement des familles et des soldats par rapport à l'histoire, si vous voulez, la grande histoire. Donc c'était un jumelage entre un héritage direct familial et un héritage intellectuel. Et petit à petit, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand écart entre l'impact que ces événements-là avaient eu sur le terrain et sur les hommes, par rapport à ce qu'on trouvait dans les livres d'histoire et par rapport à ce qu'on nous enseignait, à ce qu'on savait, quoi. Après avoir passé la phase de découverte, je suis rentré dans une phase de militant. Je me suis dit, j'ai lutté contre l'ignorance, contre l'oubli. C'est d'abord ça. Et la troisième phase maintenant, qui est la retransmission de la mémoire.
Cet agriculteur de profession, qui déterre régulièrement des obus, nous a donné rendez-vous sur les hauteurs de la commune.
On est sur les positions allemandes. On est sur une position stratégique que la première armée allemande de von Kluck a choisie pour s'arrêter au repli de la première bataille de la Marne. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour suivre les mouvements de l'armée française. D'où l'incompréhension d'ailleurs des soldats d'attaquer ici. C'est une véritable nécropole que vous avez devant vous, qui est cachée, qui est discrète, parce que les tranchées qui restent ici sont cachées par la végétation. Les corps, on n'en sortira plus beaucoup, alors qu'il y a beaucoup de disparus ici, hein. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les gens qui viennent de loin. Nous, on vit sur ce lieu-là, donc on a une forme d'immunité par rapport à tout ça. Enfin, d'immunité, j'entends, presque biologique, hein. Mais les gens qui viennent de loin, quand ils découvrent le coin-là, quand ils découvrent l'histoire, eh bien, la première chose, c'est de dire « Oh, c'est joli ici ». Mais le deuxième sentiment, c'est la tristesse, quoi. Parce qu'ils savent que les leurs sont venus. On est bien, on est au calme, c'est beau. Et en même temps, quand vous avez cette histoire-là, il y a toujours, c'est une forme de mélancolie, si vous voulez. Celui qui connaît, il ne peut pas être heureux, il ne peut pas être gai. On vit dans une forme de mélancolie en permanence. Vous voyez. C'est ça qui est beau ici. c'est un lieu pour écrire des poèmes.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme.
Crâne est devenu célèbre pour une chanson contestataire entonnée par les soldats français lassés d'être envoyés à la boucherie.
Alice pensait, avec raison, que quelque douloureuses que fussent les souffrances des malheureux soldats blancs, ceux-ci avaient au moins toujours des sympathies.
Le souvenir de la Grande Guerre, source de nombreux reportages ces dernières années, comme ce web documentaire de France 24 sur les tirailleurs sénégalais, préparé par Stéphanie Trouillard, arrière-petite-fille de Poilu, elle a glané des informations partout dans le monde.
Pour une guerre dont la cause ne les touchait point.
C'est ce qui a été beaucoup plus facile avec ce centenaire, c'est la facilité avec laquelle on peut trouver des documents sur Internet. Et donc vraiment, on a accès à des centaines, des milliers de documents et on peut reconstituer l'itinéraire d'un soldat juste devant son ordinateur en restant chez soi. Ce qui a été aussi intéressant, c'est la facilité pour échanger avec les internautes. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux et c'est les gens qui m'envoyaient des documents, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, et qui me partageaient aussi finalement l'histoire de leur famille avec une simple photo, un petit objet. Donc il y a vraiment un échange et une vraie communauté qui s'est créée tout au long de ce centenaire en France, mais aussi avec les gens des autres pays, des Américains, des Anglais, des Australiens, des Allemands.
1918-2018, là il y a le centenaire, il y a énormément de commémorations. Comment est-ce qu'on fait après pour continuer à intéresser sur ce conflit?
Alors c'est toute la question, puisqu'il y a beaucoup de musées, de centres d'interprétation qui ont été rénovés ou qui se sont créés pendant ce centenaire. Donc là, ils ont attiré du monde, notamment en 2014 et cette année. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de l'année prochaine? On a tous ces outils mémoriels, mais est-ce que le public va encore répondre présent? Alors du côté des Britanniques, il y a toujours une forte présence tous les ans pour les commémorations. Mais est-ce que chez les Français, cet engouement va perdurer? Il y a beaucoup de gens qui se sont passionnés. Il y en a qui étaient déjà passionnés auparavant, mais je pense que voilà, les relations vont continuer. Moi, je vais continuer, bien sûr, à en parler, à partager avec cette communauté qui s'est créée sur Internet. Et donc, on va continuer, bien entendu, ce travail de mémoire.
La mémoire de la Première Guerre mondiale va perdurer au-delà du centenaire. C'est aussi la conviction de l'historien Nicolas Hoffenstadt.
D'abord, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas au-delà du centenaire, puisque ça, c'était déjà très présent avant. C'est-à-dire que la mémoire en France de 14-18, elle a vraiment continué, elle a même connu un renouveau à partir des années 1990. Donc c'est pas le centenaire. Mais je pense que c'est lié à un intérêt plus général pour l'histoire et pour l'histoire de la guerre, qui, d'une certaine manière, auquel on demande des réponses pour le présent. Donc le centenaire a donné une visibilité, il a mis beaucoup d'argent, il a ouvert les possibles, il a permis à des gens qui faisaient des choses petitement de donner un espace public plus large. Mais cet intérêt mémoriel, cette force de la mémoire de 14-18 en France, elle va se pérenniser après le centenaire. Il ne change rien de ce point de vue-là. Ce qui va changer, c'est quand les générations vont changer. Parce que on voit que beaucoup de ces porteurs de mémoire sont des gens qui sont souvent la génération des petits-enfants de Poilu, qui se souviennent de leur grand-père, qui leur a raconté des récits au coin du feu, si l'on peut dire. Et cette génération, évidemment, elle va vieillir. Donc c'est plus ça l'enjeu. C'est le passage avec des générations qui sont moins actives, mais c'est pas tout de suite. C'est pas lié au centenaire. Ce sera vraiment dans quelques décennies, quand ces petits-enfants ou arrière-petits-enfants seront bien vieux.
Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname, qu'est le roi des patelins.
Passeur de mémoire, la Grande Guerre pour la postérité. Grand reportage Bruno Faure et Grégoire Sauvage. Réalisation Pierre Chaffanjon.
La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpèrent roulèrent dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains.